La persécution des prophètes. Alors, la persécution des prophètes, dans Ézéchiel, au chapitre 3, en gros, il est dit que si on voit quelque chose qu'un frère s'égare, on est censé le ramener dans le droit chemin. Voilà. Sinon, c'est nous qui portons son péché. Donc, le prophète, c'est celui qui va s'attaquer à la fausse paix. C'est-à-dire que mon frère, il s'égare, et puis il y a quelque chose qu'il fait pour s'installer dans une fausse paix, et le prophète, il va porter une certaine division pour rétablir la vraie paix, la paix divine, pour extirper le péché des gens qui l'entourent. Et donc, du coup, le prophète va être persécuté, même par sa famille. Donc, dans l'Ancien Testament, ça va être Jérémie qui est persécuté, ça va être les vignerons homicides, hein, la parabole des vignerons homicides, c'est les prophètes qui sont envoyés un par un, dans Marc au chapitre 12, et puis à la fin c'est le Fils qui est envoyé, donc c'est le prophète suprême, et qui lui aussi meurt martyr. Voilà. On a la controverse entre Jésus et les pharisiens sur vous qui persécutez les prophètes, vos pères ont bâti les tombeaux des prophètes, et il dit finalement vous êtes en train de reproduire ce qu'ont fait les autres, de fuir l'esprit prophétique, les gens qui font des choses un petit peu qui vous dépassent, et ben vous attaquez à eux parce que vous dites ils rentrent pas dans nos petites cases humaines, quoi. Voilà. Et on a tous les prophètes de l'Ancien Testament et les différentes persécutions qu'ils ont eues qui sont décrites dans le livre aux Hébreux au chapitre 11. Je vous l'ai mis sur la feuille. Hébreux chapitre 11, 1 à 3 et puis 33 à 40. Le texte est intéressant parce qu'il donne un panorama. Enfin, c'est un chapitre qui clôt ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux sur la foi. Et à la fin, il dit, que dire encore ? Il parle des prophètes, eux qui, grâce à la foi, conquirent des royaumes, mirent en œuvre la justice, virent se réaliser des promesses, muselèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, etc., etc. D'autres subirent l'écartèlement. Donc, un des endroits où sont résumés le mieux toutes les persécutions qu'ont eu les prophètes, c'est là. Parce que la plupart des écrits qui décrivent les persécutions des prophètes sont perdus, je pense, ou étaient dans la tradition orale juive, et là, on les retrouve, en fait. Voilà, ils erraient dans les déserts, les montagnes, ils étaient dans les grottes, eux tous. S'ils ont reçu bon témoignage grâce à leur foi, n'ont cependant pas obtenu la réalisation de la promesse, c'est-à-dire qu'ils ont vu la promesse de loin, comme Moïse qui voit la terre promise de loin, mais ils l'ont préparée, voilà, ils étaient la voie. C'est ça le rôle des prophètes, et donc ils sont persécutés. Et Jésus dit, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Au temps de Jésus, bah c'est pareil, hein, les prophètes sont persécutés, on l'a dit. Alors un signe de ça, je trouvais ça intéressant, c'est dans le livre des Maccabées, le livre des martyrs d'Israël. Juste après, quand Antiochus Épiphane fait le sacrifice affreux sur l'autel, eh bien on démolit cet autel en disant il a été souillé, et puis on met les pierres de côté en disant il y a un prophète un jour qui va venir et qui va nous dire ce qu'on va devoir faire avec ces pierres. Et en fait, il y a eu plein de prophètes qui sont venus, des gens comme Esther, Judith, la sagesse, l'ecclésiastique, et la tradition juive n'a pas reçu ces livres-là. C'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est dit dans les écrits, on attend un prophète qui va nous dire ce qu'on doit faire de ces pierres de l'autel qui ont été déconstruites, et la tradition juive s'est fermée en disant, on ne veut plus d'autres livres dans notre canon biblique. Et en fait, c'est le Nouveau Testament qui a dit, on va rouvrir le canon biblique, et qui a intégré ces livres comme Esther, Judith, ecclésiastique, etc., et puis aussi tous les livres du Nouveau Testament, vous voyez. C'est-à-dire que c'est comme si le prophétisme avait été transféré chez les chrétiens, en fait. Et qu'au temps de Jésus, il y avait les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, qui étaient nés au même moment à peu près que les Maccabées. Et eux, ils avaient repris la loi, ils avaient dit, nous, on pense qu'il faut interpréter comme ça. Mais ils n'avaient pas reconnu tous ces prophètes qui étaient envoyés encore à cette époque. Et à notre époque, les prophètes sont. Il y a également un certain nombre de persécutions, parce qu'il y a eu un certain nombre de dérives par rapport aux révélations privées. Des gens qui disaient j'ai une révélation, et comme il y a eu des dérives, l'Église a formulé des canons, c'est-à-dire des lois internes à l'Église qui interdisaient les livres et libellés qui racontent des nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties et miracles, ou lancent de nouvelles dévotions, même sous le prétexte qu'elles sont privées. Et donc pendant un certain nombre de siècles, on n'avait pas le droit de dire « j'ai des révélations à d'autres », en fait. Et ce canon-là a été aboli en 1966 par Paul VI, c'est-à-dire que le pape s'est dit qu'il était venu un moment où il fallait que le prophétisme revienne, en fait. Et ça, c'est un signe très fort, que s'accomplit la parole « en ce temps-là, vos fils et vos filles deviendront prophètes ». Voilà. Depuis ce temps-là, tous ceux, des gens comme Marie d'Agreda, comme les livres ont été publiés d'une manière phénoménale pour qu'on puisse goûter à tous ces écrits et et que ce ne soit pas que ceux qui ont été déclarés saints par l'Église. Il faut discernement, il faut modération, obéissance, évidemment, à l'Église, hein, aux évêques. Mais il existe une méfiance aujourd'hui du monde de la théologie vis-à-vis du surnaturel sensible, parce qu'on se dit que tout a été dit, parce qu'on se dit que bah, tout ce qui viendrait en plus, c'est forcément entaché d'erreur, il n'y a que les dogmes qui seraient vrais, parce que ça fait ombrage à l'autorité institutionnelle, c'est-à-dire qu'on se dit bah, le prophète il est branché en direct sur le Seigneur, donc moi qui suis enseignant, qui suis bah, prêtre, diacre, ou qui ai une certaine place dans l'Église, par exemple, bah, je vais avoir peur de ce gars qui concurrence ma raison, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup ça. Et c'est aussi pour ça que dans le monde de la théologie, c'est très particulier. On ne lit pas. C'est très rare les gens qui lisent les prophètes modernes, en fait. On va lire les choses qui vraiment sont estampillées par l'Église, quoi, pour lesquelles il y a un évêque qui a dit oui, lui, je le reconnais. Enfin, il y a eu une démarche pour reconnaître quelqu'un, mais à partir du moment où il n'y a pas eu de démarche où c'est en stand-by, souvent on dit non, faut surtout pas le lire, quoi. C'est quelque chose de dangereux. Et dans les faits, il faut savoir que ça peut être une erreur de dire un tel a prophétisé quelque chose et ça ne s'est pas accompli. Parce qu'une prophétie, c'est-à-dire quand un prophète dit quelque chose qui a trait à l'avenir, c'est souvent Dieu qui va lui dire ça pour que les gens se convertissent. C'est-à-dire qu'une prophétie est conditionnelle. Ça reflète le futur à un moment donné, et Dieu intervient dans le présent, comme on disait tout à l'heure, pour que l'humanité prenne une bifurcation. Ça va être la Vierge de Pontmain qui va faire prier les enfants en disant « Si vous ne priez pas assez, il va y avoir une guerre, il va y avoir une bombe, il va y avoir je sais pas quoi. » Elle dit pas forcément ce qui va se passer. Jonas, il dit à Ninive « Ninive sera détruite si vous ne vous convertissez pas. » Et en fait, ça ne s'accomplit pas. Et d'ailleurs, Jonas s'énerve parce qu'il a dit quelque chose qui ne s'accomplit pas. Et c'est énervant, ça peut être énervant pour un prophète. On a Ézéchias, Isaïe lui dit « Tu vas mourir » dans Isaïe 38. Et en fait, il ne meurt pas parce qu'il s'aplatit devant le Seigneur, quoi. Et il arrive à détourner les fléaux de lui-même et de son peuple. Voilà, donc, comment on discerne sur un prophète ? Alors, voilà quelques clés pour pouvoir dire, ça, à mon avis, c'est un bon ou un mauvais prophète. Comme dans les inconnus, hein, il y a les bons et les mauvais prophètes. Voilà, vous avez avec le bon et le mauvais chasseur, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, premièrement, la sainteté de vie de la personne. Est-ce que c'est une personne qui est transparente? Quand je la regarde, c'est le Christ que je vois derrière cette personne. Voilà. Est-ce que c'est Dieu que j'entends à travers elle? Est-ce qu'elle a tendance, dans ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, à régler ses comptes? Voilà. Parce que normalement, un prophète ne parle pas pour tirer sur quelqu'un, il parle pour parce que Dieu lui dit de dire ça, quoi, ou pour révéler quelque chose. Mais c'est pas le vrai prophète, il n'est pas en train de dire, moi, il y a un truc qui m'énerve, et c'est ça, et voilà, non, c'est plutôt, Dieu est triste parce que, normalement, c'est comme ça, donc ça veut dire, je reçois quelque chose, j'ai l'impression que c'est le Seigneur qui me le dit. Pour pouvoir le dire de manière prophétique, il faut vraiment que je confie dans la prière telle difficulté que j'ai. Par exemple, si je veux parler de tel sujet, si je reprends ma directrice générale qui me persécute, et elle m'énerve parce que sur tel sujet, elle a pris telle décision, et je vais parler avec des collègues de telle chose, eh bien, il va falloir, avant que j'en parle avec mes collègues, que j'arrive à dire « Seigneur, je t'offre vraiment ce qui me fait souffrir dans cette décision qu'elle a prise pour ne pas que mon amertume ressorte dans la discussion que je vais faire avec mes collègues. » Vous voyez ? Donc, si jamais c'est le Seigneur qui m'envoie vers mes collègues pour prophétiser et prendre la défense de ma chef, eh bien, il faut que je sois débarrassé de mon amertume et de ma poutre et de tout ce qui ferait que mon message serait souillé par ma propre perception, mes propres craintes. Voilà. La sainteté de vie de la personne, c'est vraiment quelque chose qui permet de dire c'est plutôt un prophète ou pas. Et à l'inverse, il y a de l'antisainteté, la trace du mal, des gens qui ont quelque chose dans leur vie qui est vraiment en contradiction formelle avec l'enseignement de l'Église, par exemple, bah, c'est un signe que ça peut être un mauvais prophète. Moi, j'ai un exemple, j'étais en cité universitaire, il y avait une fille, à chaque fois que je la voyais, j'avais des idées perverses qui me traversaient la tête. Et en fait, j'ai appris que cette fille-là, elle faisait tourner des tables, qu'elle avait. Et effectivement, je pense qu'elle avait un esprit qui s'attaquait aux gens autour d'elle, à travers de l'impureté, à travers. Ça peut être des personnes, par exemple, qui vont avoir des paroles obscènes, comme ça, comme elles vont parler de la pluie et du beau temps, puis elles vont se mettre à parler d'un truc pornographique qu'elles ont vu, ou d'une personne qui a dit quelque chose aux infos, ou d'un homicide qui a eu lieu, et d'en parler avec un dédain absolu, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des traces du mal qui permettent également de discerner des mauvais prophètes et des gens dont il faut s'éloigner pour ne pas être contaminé. Voilà, c'est à double tranchant. Deuxième critère, est-ce que c'est reconnu par l'Église ou son évêque ? Ça, bien sûr. Le problème de ce critère-là, c'est que du coup, on a tendance à dire ce qui n'est pas reconnu, c'est mauvais, alors que c'est, il est dit, discerner la valeur de toute chose. Troisièmement, la sainteté de vie de personnes qui discernent sur cette personne. Donc, ça va être les gens qui l'entourent. J'ai pas forcément le temps d'étudier tous les prophètes qui existent, donc peut-être que je peux lire des écrits d'une personne qui est une sainte personne et qui va écrire, ben moi, je pense qu'un tel, c'est un prophète. Et à un moment, il faut faire confiance. C'est ça, le problème de la foi, c'est aussi d'arriver à faire confiance à certaines personnes. Et elle me dit qu'un tel est un prophète. Je vais arrêter de me faire des nœuds au cerveau. Si c'est une sainte personne, je peux peut-être mettre ma foi dans cette personne. Et aujourd'hui, ça peut être, parce qu'on est à l'ère d'Internet, ça peut être l'administrateur d'un site. Si l'administrateur du site, c'est quelqu'un de saint, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T, je dis ça pour ceux qui relayent des révélations privées, est-ce que sur les forums, l'administrateur du site, il autorise les gens qui critiquent le pape, par exemple? Ben ça, c'est un signe très fort qu'il faut s'éloigner de ce forum-là, de ce site-là, qui recense des prophètes, parce que dedans, il va y avoir aussi des faux prophètes qui vont semer le trouble. Et les gens qui vont lire beaucoup de prophéties, parce que ce qu'on trouve sur Internet, je fais une parenthèse, mais c'est beaucoup de choses qui ont trait à l'avenir. Et si on ne lit que ça, ça fait naître un stress, et je vous déconseille vraiment de le faire. Si vous voulez lire des écrits de mystiques, prenez un livre en entier. Vous prenez par exemple Maria Valtorta, et vous prenez un des bouquins en entier. Et là, le Seigneur va parler, et il va parler de beaucoup de choses en lien avec la Bible, la vie de prière, et de temps en temps, il va donner un petit élément lié au futur, mais qui va s'insérer dans le contexte, en fait. Parce que si on lit sur un site internet tout ce que disent la France et la Navarre sur l'Apocalypse, sur ce qui va se passer, je sais pas quoi... Ben en fait, c'est comme si on lisait en boucle le chapitre 21 de Saint-Luc et le chapitre 13 de Saint-Marc, vous savez, où on parle des signes des temps. Et ben, ça va nous faire flipper. Mais même dans la Bible, on peut flipper si on lit que les passages en boucle qui font flipper, quoi. Normalement, ces passages, ils s'insèrent dans l'Évangile, ils arrivent plutôt à la fin parce que il y a eu une croissance pendant 3 ans des disciples et là, il leur dit, ben, maintenant, je vais vous donner des trucs un peu plus costauds, quoi. Et encore, vous n'avez pas la force de tout porter. Donc, si on veut lire un prophète, on peut le faire, il faut se faire conseiller ou lire des avis de d'autres personnes qui disent bon, « à mon avis, il est inspiré ou pas », et puis prendre un truc en entier, et puis comme ça, on voit la manière dont le Christ parle à cette personne et la mission qu'il a donnée à cette personne, et en quoi cette personne va apporter quelque chose au monde, va être une voix particulière, parce que chaque prophète a une voix particulière pour donner un message particulier. Il y a le prophète Marguerite Marie Alacoque qui va être la voix du cœur de Jésus. Grâce à elle, Jésus va manifester l'amour qu'il y a dans son cœur. Et d'autres vont reprendre le flambeau, et d'autres vont avoir une autre mission pour révéler d'autres choses. Enfin, c'est-à-dire que ça va être un peu le cœur de leur mission. Jésus va révéler beaucoup de choses à travers chaque prophète, mais il y a un petit peu quelque chose qui va être une constante dans le prophète. Voilà. Quand je vais voir ce prophète-là, je vais discerner un petit peu plus ce que Jésus dit sur telle thématique, parce que c'est ça qui va revenir. Et puis après, il peut y avoir des choses qui ternissent le prophète dans le manque de sainteté d'une personne. Par exemple, celui qui rédigeait les écrits d'Anne-Catherine Emmerich, eh ben, il a rajouté certaines choses dedans. Et qui fait que ces écrits, il y a certaines choses, des fois, des erreurs qu'on trouve, en fait. Et Jésus l'a dit à Maria Valtorta. Il lui a dit, c'est pour ça que vous faites des nœuds au cerveau depuis des années. Il y a, malheureusement, vous pouvez lire ces écrits, mais il faut savoir que il faut prendre du recul en disant, il y a des fois des choses qui choquent un peu, on se dit, tiens, on n'est pas obligé de le considérer à 100% comme vrai, parce que peut-être que cette femme-là était complètement inspirée, mais il y a eu une personne qui entourait le prophète, qui n'avait pas une sainteté de vie peut-être suffisante pour respecter le message tel qu'il avait été formulé. Voilà. Donc ça, c'était le troisième critère. Quatrièmement, l'orthodoxie des propos tenus, c'est est-ce que ce que dit le prophète est conforme avec la foi et les mœurs? Donc est-ce qu'il y a des erreurs? Et s'il y a des erreurs, est-ce qu'il s'agit d'erreurs graves? Voilà. Petite erreur, c'est pas dramatique. Un théologien peut se gaufrer formulant telle ou telle chose. Un certain nombre de théologiens s'en offusque pas d'ailleurs en disant tiens, il s'est planté là-dessus, bon, c'est pas grave, voilà. Mais un prophète, on va l'allumer quand il se plante sur un truc. Alors qu'en fait, c'est un être humain. Des fois, il peut se souvenir un peu de travers, il a trop mangé, et puis il dit Jésus a dit ça, puis en fait, c'était pas tout à fait ça. Mais un faux prophète, il va dire des choses graves, comme par exemple, on n'a qu'à faire une messe où l'Eucharistie, c'est plus l'Eucharistie, et où c'est un diacre qui va consacrer. Et vous voyez, ça, c'est une erreur grave, par exemple. Et donc là, on peut se dire, c'est un faux prophète. Ou quelqu'un qui dirait, finalement, il n'y a plus besoin que le prêtre célèbre, on recevra toutes les hosties parce qu'elles apparaîtront d'une manière miraculeuse. Ça aussi, ça sera un faux prophète, parce que Jésus a bien dit, l'Eucharistie, c'est quand il y a un prêtre institué par mon Église sainte qui dit, ceci est mon corps. Voilà. Donc, il faut que ce soit, qu'il n'y ait pas un écart d'ampleur sur quelque chose d'important. Par exemple, l'islam qui va dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas mort sur la croix, et Dieu n'est pas Trinité. Ben ça, on peut dire Mahomet était un prophète, mais c'était plutôt un faux prophète, parce que ça, c'est des écarts graves par rapport à la foi catholique. Et, ce n'est pas tolérable dans la foi tout court. Il vaudrait mieux quelqu'un qui dise « je ne sais pas » ou « enfin, je suis pas sûr ». Mais là, le Coran, de bout en bout, déclare sans arrêt « non, je suis sûr, Jésus n'est pas Dieu », par exemple. Vous voyez, donc là, c'est un faux prophète. Cinquièmement, sur la forme, ne pas enfermer les prophètes dans nos a priori, avec des lois générales de comment Jésus parle, en fait. Chaque personne va parler avec comme dans la Bible où il y a plein d'écrits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et ben les prophètes, vous allez trouver des gens qui font des exposés théologiques, des gens qui rivent des petites phrases comme ça, avec plein de fautes d'orthographe. En fait, il faut se laisser bouleverser par les différentes manières d'écrire que l'Esprit-Saint suscite. C'est pas un critère, la forme, en fait. La manière dont les gens ont reçu. Il faut évacuer ça de notre mode de pensée, parce que c'est un faux critère, en fait. Le Seigneur suscite l'harmonie à travers un brin d'herbe et à travers un chêne. Voilà. Et puis c'est comme ça. Et il y en a, ils vont écrire des petites choses toutes petites, et il y en a, ils vont faire des exposés doctrinaux. Est-ce qu'il y a des fruits? Donc, y a-t-il embrasement du cœur des auditeurs? Ou est-ce qu'il y a du stress au contact de ces écrits, au contact de... Moi, je vous mets au défi de lire le Coran. Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'étais stressé, d'un stress viscéral à chaque ligne que je lisais. Je l'ai lu en entier et c'est un des trucs les plus durs que j'ai fait dans ma vie, c'est ça. Donc après, on peut me dire, bah oui, mais c'est parce que t'es chrétien, etc. Après, c'est toujours la même chose, quoi. Est-ce qu'on fait confiance à un frère qui dit, moi, j'ai expérimenté ça? Est-ce qu'on le prend comme un signe ou pas? Mais il y a des écrits qui sont malsains et d'autres qui élèvent l'âme. Hein. Vous prenez le psaume 22, le Seigneur est mon berger, bah, c'est autre chose que ce qu'on lit dans le Coran, quoi. Vraiment, ça, on n'en sort pas pareil. Donc, est-ce que au contact d'un prophète, il y a des belles choses qui s'en dégagent, ou est-ce qu'il y a du trouble, de l'agitation? Critère suivant, est-ce que le prophète est ouvert à la critique et à la contradiction? Donc, on a en Jérémie chapitre 28... où il y a un autre prophète qui lui dit « Non, non, je suis pas d'accord, il va se passer ça », et il donne un signe fort devant tout le monde, il prend le joug qui est sur les épaules de Jérémie, qui symbolisait l'oppression. Jérémie disait « Il faut se laisser faire par le peuple de Babylone qui vient et se mettre à leur service ». Et l'autre prophète, il prend le joug et puis il le brise en disant « Non, non, le Seigneur va vous libérer, etc. » Jérémie, il dit « Bah d'accord, si ça vient du Seigneur, très bien ». Et ça, c'est un signe d'authenticité, c'est le gars qui accepte de se laisser, même si le Seigneur lui a dit des choses, il dit, si toi, tu penses que le Seigneur t'a parlé, après tout, on va bien voir si ta parole s'accomplit. Ça, c'est un signe qu'on est un prophète, parce qu'on laisse la place aux autres prophètes, en fait. Voilà. Et dans les faits, le gars, il meurt dans l'année, je crois, de mémoire, enfin, il se fait rétamer, enfin, c'est pas du tout ce qu'il a dit qui se passe. Donc, toute critique qu'on reçoit est potentiellement un prophète que le Seigneur nous envoie, en particulier les personnes desquelles on trouve le plus déplacé de recevoir des remontrances. Donc pour des parents, ça va être les enfants. Quand un enfant me dit un truc, parce que l'enfant il voit tout, pourquoi une fois qu'on est couché, tu te sers dans le pot de Nutella alors que tu nous dis d'être raisonnable en journée? Voilà, des exemples comme ça, on peut en trouver plein, vos enfants, ils vous ont... Ou alors quelqu'un dans notre équipe au bureau, ou une personne qu'on croise, voilà, il y a des gens, ils vont nous dire un truc et... Être prophète soi-même, c'est accepter que j'ai reçu ça, c'est peut-être le Seigneur qui m'a dit ça, quoi. Voilà. Ou si sur le coup, j'ai pas trop compris une phrase qu'on m'a dite, qui était un peu hors contexte, et ben dans ce cas-là, je vais la méditer dans mon cœur. Je vais faire comme la Vierge Marie, je comprends pas tout, je la médite dans mon cœur, et puis le Seigneur va mettre ça en lien avec une chose de ma vie. Et à un moment, ça va faire tilt, je vais dire, ça, c'était prophétique. Voilà, nous, on a eu le cas d'un notre fille qui a fait un rêve, elle nous l'a raconté 3 fois. C'était un truc qui avait ni queue ni tête. Et en fait, c'est un truc pour nous. C'était une parole prophétique qui passait par notre enfant. Mais elle nous l'a raconté 3 fois avec insistance. Alors que nous, on était la tête dans le pâté en train de préparer le petit-déj, et avec l'énervement de, en gros, t'es assise en train de déblatérer un truc, alors que nous, on est en train de rendre service, quoi. Et en fait, c'est après coup qu'on s'est dit, mais c'est incroyable parce que, en fait, on a ouvert la Bible un soir parce qu'on priait pour une difficulté qu'on avait, et en fait, ça faisait référence explicitement au songe de notre fille. Le songe était un peu la clé pour comprendre le texte, vous voyez. Pour les prêtres, ça va être d'écouter leurs paroissiens et d'écouter des personnes qui ne sont pas prêtres. Et ça, il faut beaucoup compris pour nos frères prêtres, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Les prophètes tels que je les ai décrits, un certain nombre de prêtres, aujourd'hui, se sont formés dans les séminaires à ne pas reconnaître le prophétisme comme valide, vous voyez, à dire finalement, ce qui est important c'est les dogmes, c'est la loi interne à l'Église, mais le prophétisme ça passe après, les révélations privées ça passe après. Et dans les faits, Jésus il a dit, ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent, il n'a pas dit, ils ont la loi, les prophètes et les livres de sagesse. Donc il ne parlait pas d'abord de l'Ancien Testament, sinon il aurait dit aussi les écrits de sagesse, il a dit, en fait, ils ont à la fois la tradition, et les personnes que j'envoie qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui vont vous dire une parole qui va vous transpercer le cœur. C'est ça qu'il a dit Jésus. En fait, il faut à la fois être soumis à l'Église et à la fois être soumis à notre frère que le Seigneur nous suscite. C'est ça que ça veut dire. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les prêtres ont besoin qu'on prie pour eux, c'est parce que il y a une difficulté particulière, parce qu'on les forme à d'abord se focaliser sur ce que dit l'Église et à toujours se référer à l'Église et que à l'Église officielle, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont sues par des prophètes d'aujourd'hui et qui sont utiles aussi parce que le Seigneur suscite ces gens-là et on en a besoin aussi. Et c'est aussi pour ça que nous, quand on en parle, il faut en parler avec douceur, délicatesse et dire finalement si un prêtre, par exemple, il nous dit non, c'est pas important, faut pas forcément monter au créneau. Il y a qu'avec douceur finalement qu'on peut arriver à faire passer certaines choses quand le Seigneur il va nous dire quelque chose et dire le Seigneur me demande de vous dire quelque chose. Il n'est pas étonnant qu'on se fasse mal recevoir dans certains cas, en fait. Voilà. Je connais des personnes à qui c'est arrivé. Le Seigneur leur a demandé des choses, d'aller voir tel évêque, tel prêtre. En général, ils se font mal recevoir parce que c'est pas dans la mentalité d'aujourd'hui qui est encore des prophètes. On se dit, les prophètes, c'était dans la Bible, en fait. Mais il y a bien un moment, des gens qui ont accepté que ces gens-là, ils étaient des prophètes et qu'on les intègre dans les écrits officiels. Vous voyez. C'est peut-être une persécution à l'encontre des prêtres qui est faite aujourd'hui, qui est qu'on évite de leur donner cette sensibilité au prophétisme. Et donc, si jamais c'est un faux prophète que le Seigneur a mis à côté de nous, c'est le Seigneur lui-même qui se chargera, comme Anania avec Jérémie, qui se chargera finalement de montrer à tout le monde que c'était un faux prophète. Voilà. Quatre grands prophètes, c'est Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Les Juifs ne mettent pas Daniel parmi les prophètes parce que, disent-ils, il vécut dans l'éclat des dignités temporelles et dans un genre de vie éloigné des autres prophètes. C'est-à-dire qu'on a du mal à se dire que ce mec-là qui vivait à la cour et qui était le second du royaume des Mèdes et des Perses et des Babyloniens, on a du mal à le voir prophète, en fait. Et alors que manger des sauterelles ou vêtu de poils de chameau, ça veut pas dire être riche ou être pauvre, en fait. C'est les choses qu'on a dites tout à l'heure, en fait. Ça veut dire des choses qui ne se voient pas forcément. Voilà. Épiphane, il recense 73 prophètes et 10 prophétesses. Il y a beaucoup de gens, en fait, dans la Bible qui sont revêtus de l'esprit prophétique. Rien qu'en lisant les écrits, on peut se dire... Les prophétesses, c'est des femmes prophètes. Voilà. Donc, c'est pas réservé aux hommes. Donc, en conclusion, en fait, avec les éléments que j'ai essayé de donner ce soir, en reprenant ces éléments-là, on peut, en contemplant certains prophètes, Élie, Élisée, ou même des gens comme la sœur de Moïse qui suit Moïse, en fait, la tradition juive dit que c'est elle qui avait eu en vision qu'il fallait mettre le petit frère dans un panier en osier, en fait. Que c'est grâce à elle que les parents ont eu le cran de faire ça. Et en fait, on voit que les prophètes, ils sont là tout le temps. Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il dit beaucoup de choses qui ne sont pas... Il n'y a que le prophétisme, en fait, qui pouvait révéler ça, que telle parole prise isolément, ça voulait dire ça. Parce que quand on lit tout le passage, on se dit, non, ça ne veut pas dire ça. Mais en fait, on se dit, le gars, il a dû recevoir des éclairs du Saint-Esprit. Le prophétisme est partout, vous voyez. Et donc, ces éléments-là, en fait, le Seigneur va nous donner de les mâcher en contemplant des personnages ou en écoutant une parole qui est dite à la messe, dans une des lectures de la messe, pour qu'on puisse à nouveau, comme dans Isaïe 8, il est dit « Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part du Seigneur de l'univers qui demeure dans la montagne de Sion. » Voilà. Merci pour votre écoute et merci.